Marie cultive, alors c'est encore du militantisme, hein, ceci dit, dans la chronique de jardin.
Tout à fait, et on est aussi pas très loin de Marine sur, en tout cas, les dérèglements climatiques. C'est que moi, je vais vous parler d'un mouvement qui existe et qui s'appelle le No Mow May.
C'est toujours en anglais, c'est ça qui est pénible.
Ouais, hein. C'est un mouvement qui nous vient du sud de l'Angleterre et qui veut dire pas de tonte au mois de mai. L'objectif, il est de sauver la biodiversité.
Et donc, bien mal en point, on a fait une émission là-dessus hier.
Ouais, on pourrait en faire tous les jours tous les jours. Toute la journée, oui, je pense. Oui. Donc l'idée, c'est de mobiliser les citoyens et de leur permettre de faire également un inventaire des fleurs présentes dans leur pelouse au mois de mai. Donc au mois de mai, en tout cas dans le Finistère. Dans les zones méridionales, ça peut se faire même plutôt en avril. Oui. Il faut un peu de discernement pour voir à quel moment les fleurs poussent.
Mais ça a été choisi par hasard comme
effectivement, en fait, au mois de mai, c'est vraiment la période, on y est en plein, c'est la période où tout commence à vraiment beaucoup pousser, où on a beaucoup de fleurs, c'est la fin des myosotis, donc du coup, si on les tond, elles ne font pas de graines, elles se reproduisent moins. Et pour tout ce qui va être le trèfle, les boutons d'or, les pissenlits, à qui la majeure partie des gens que je fréquente font la guerre, c'est malheureusement des espaces vraiment très précieux. Donc l'idée, c'est de modifier un peu sa vision des choses en matière de jardin, de modifier aussi le regard de ses voisins et de se détendre sur notamment le regard de ses voisins.
De se moquer du regard de ses voisins.
ça peut faire partie en militant aussi sur le fait que on préserve la biodiversité et un désert ne fleurit jamais s'il est trop régulièrement tondu.
C'est ça.
Un désir. Oui.
Il faut rappeler aux gens que les pollinisateurs, c'est pas juste pour faire des petits bourdonnements et pour faire joli, c'est parce que un jour, s'il y a plus de pollinisateurs, on pourra plus manger.
Ah oui,
parce
alors
que les cultures ne pousseront plus.
Eh bien, on estime que 8 plantes sur 10, donc si on fait un petit ratio, ça fait quand même 80% des plantes, des fruits que l'on mange, se reproduisent grâce aux pollinisateurs.
Voilà.
Donc le jour où ces petits pollinisateurs disparaissent, on considère, notamment pour les abeilles, on considère qu'il nous reste 4 ans à vivre, il semblerait. Et si jamais on décide de le faire nous-mêmes, ça veut dire prendre son petit pinceau, sa loupe, et puis aller nous-mêmes polliniser toutes les plantes.
Mais il y aura du travail pour tout le monde. Hein,
oui, effectivement.
Oui, oui. Sinon, on mangera les pommes de pin aussi. Et pas de pollinisateur.
Ça va être rigolo. Mmh. Et donc, moi, je me rappelle d'une couverture de, je crois que c'est Libération, qui disait la fin des abeilles, la fin du monde. Quoi. Enfin, vraiment, on en est là, on est hyper dépendants. Alors, j'ai des élèves qui me disent on peut encore manger de la viande.
Oui, mais
de quoi se nourrissent les animaux? Donc, également le fait de trop tondre, donc de mettre propre. Voilà, donc là, je viens de faire des gros guillemets.
De mettre de la nature, propre sa
pelouse.
Comme si la nature était sale.
Mais ouais, en fait, c'est un peu contre-productif parce que plus on tond, plus on a besoin de tondre, plus on a besoin d'arroser sa pelouse, plus on a besoin, du coup, vu qu'on traumatise notre plante, de la stimuler. Donc, potentiellement d'y mettre des produits même naturels, mais des engrais, quoi, de la nourrir, cette plante, parce que le régras, les fétuques, ça a besoin quand même de se nourrir. Donc, du coup, si on les sursollicite, si on les stimule trop, elles ont besoin aussi de pomper des matières organiques dans le sol. Donc, du coup, c'est pas très bon pour le sol. Mmh. Et donc, moi, je trouve qu'une très belle pelouse, ça ne veut pas forcément dire une pelouse rase à 4 cm. On a un mouvement qui est l'idée de prévoir juste une fauche manuelle. Donc, on peut aussi le faire à la débroussailleuse. Moi, ça me détend beaucoup de faire la débroussailleuse. Donc,
oui,
voilà.
Mais ça fait du bruit.
C'est ça.
Marie aime le bruit.
Ça ne me dérange pas, en tout cas. Et donc, l'idée, ce serait quand même de glisser lentement vers des zones non tondues ou des zones qu'on va tondre qu'une fois par mois. Donc, effectivement, il y a aussi une idée de gestion différenciée dans son jardin en se disant que si je tonds les espaces qui sont proches de ma terrasse ou de mon bain de soleil, c'est peut-être pas trop grave, ça peut se faire. Et du coup, les zones où mes petits-enfants vont jouer au foot cet été, ben, on n'a pas besoin de faire un green de golf à l'année. Hein. Vraiment. Et donc, de glisser vers des prairies un peu naturelles et voir de carrément laisser pousser et où semer des prairies fleuries.
Quand si on a un peu d'espace quand même. Parce que...
Oui, tout à fait. Mais en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Enfin, moi, j'avais un tout petit jardin et je ne tondais pas régulièrement. D'une, parce que je n'avais pas le temps. Et de deux, bah, parce que vraiment, c'était un parti pris de ne pas saquer la zone où les pollinisateurs vont se reproduire, vont donc pondre, faire nourrice et se nourrir également. Et donc, du coup, quand on a des sécheresses, moi, j'avais des herbes hautes dans mon jardin. Donc, tous mes clients avaient une pelouse tondue à ras qui était complètement jaune. Donc, du coup, pour beaucoup, on a dû ressemer. Donc, ressemer, ça veut dire beaucoup d'énergie déployée, de l'argent dépensé et aussi ben, un traumatisme au niveau du sol. Enfin, quand on remue le sol pour l'ameublir, ça traumatise le sol. Et donc, moi, j'avais une pelouse magnifique, géante qui m'arrivait au genou, mais qui n'a pas du tout souffert de la sécheresse. Et donc, si jamais ça pose un problème de ne pas tondre, on peut aussi transformer sa pelouse ou des parties en rocaille avec, du coup, des plantes qui vont être très florifères. Donc, pourquoi pas, du coup, laisser pousser les pissenlits sans forcément leur faire systématiquement la guerre, laisser du saxifrage, des trèfles, des boutons d'or, de la bourrache, qui, eux, aussi sont des super plantes pour attirer les pollinisateurs et la biodiversité.
Mais nous voilà convaincus. Enfin, moi, j'étais déjà convaincue parce qu'en plus, ça fait moins de travail, hein, tout simplement.
Ah bah carrément, moi, le jardinage de feignants, en plus, c'est hyper écologique.
Bon, bah, à la fin, j'ai même plus de tondeuse. Hein, mais bon.